Bonsoir les amis des livres et des apéros. Il faut être le premier partout. Dans les sondages, aux primaires, en sport évidemment, mais aussi au César, au box-office, dans la liste des meilleures ventes. La France adore les chartes, les tops, les classements. Au pays de l'égalité, on n'a jamais autant recensé les numéros 1. Pierre de Coubertin avait tout faux quand il disait « L'important, c'est de participer, pas du tout. L'important, c'est d'arriver en tête. » Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? J'ai mis la littérature. Oh, mais pas du tout. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est dans la compétition, cette Dupont-Mono ? Mais regardez du côté des livres. C'est l'inverse. La littérature adore les derniers. Croyez-vous que James Fenimore Cooper se serait intéressé au premier des Mohicans ? Ben non, il a préféré le dernier des Mohicans et c'est pas pour rien. Le prince de Lampedusa a eu le même réflexe quand il a écrit Le Guépard. Il a choisi la fin de règne de l'aristocratie sicilienne. Les résidus font des personnages magnifiques. Et si vous en doutez encore, une petite compilation sortira jeudi. Ça s'appelle Les Derniers. C'est signé Bruno Leandri, paru chez Talendier. C'est une galerie de portraits des derniers, depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle, depuis le dernier César jusqu'au dernier du Vendée Globe. Entre les deux, on trouve la dernière sorcière, brûlée à Genève en 1652, le dernier bourreau de France ou le dernier magnétoscope, disparu en juillet 2016. C'est écrit de façon drôle, accessible à tout le monde, une sorte de rubrique à braque des derniers, d'autant que Bruno Leandri a longtemps travaillé au magazine Fluide Glacial. Certains derniers s'éteignent avec leur époque ou leur activité, mais pour d'autres, l'extinction se confond avec l'avènement du nouvel ère et les derniers se retrouvent en première ligne. Alors, le temps d'un dernier apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Bruno Leandri, mais rien de périmé, promis. Il nous livrera ses ultimes secrets d'écriture, ce sera le procès-verbal, nous offrira ses vices culturels cachés au bout du bout du bout du bout de la dignité culturelle, ce sera les inavouables, avant qu'une libraire ne vienne donner à la fin un air d'éternel recommencement.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Bruno Leandri.
Bonsoir.
Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, oui monsieur, l'ont pensé bien avant moi.
Les derniers seront les premiers dans l'autre réalité. Nous serons princes d'éternité.
Les derniers seront les premiers, chanson écrite par Jean-Jacques Goldman, notre dernier grand génie, finalement, c'est un avis personnel. Pour revenir à votre livre, Bruno Leandri, est-ce que c'est un hommage au dernier que vous vouliez faire ou alors prendre une revanche ?
Pas exactement, mais dans l'apéro précisément, puisqu'on est en plein, vous avez remarqué que quand il y a des saucisses à cocktail, personne ne prend la dernière saucisse à cocktail. Dans le domaine des derniers, on est tranquille, on est seul, parce que là, il n'y a pas de compétition, on se bat pas. Alors, c'est pour ça que j'aime bien les derniers, on est à l'aise, personne ne vous pousse du coude, comme on a beaucoup parlé récemment, et les derniers, je les adore en tout domaine.
En plus, parfois, ils peuvent être les premiers. Je pensais au roman de Malville de Robert Merle, où les derniers survivants après une catastrophe apocalyptique sont de facto les premiers humains d'une nouvelle ère. Donc il y a un côté, les derniers seront les premiers.
Oui, puis je vais avoir l'air malin quand mon livre sur les derniers sera premier des ventes.
Vous serez bien content. On passe du dernier grand pingouin au dernier grand calife dans votre livre, en passant par la dernière deux chevaux. Comment est-ce que vous avez choisi ces derniers spécimens ?
Alors, il y a des derniers qui sont parfaitement insignifiants. C'est le dernier en fin de liste, il n'y a rien à en dire. Et puis, il y en a d'autres qui dégage quelque chose, parce que il se résigne pas à être dernier. Alors, ça dégage une histoire très très particulière qui est faite ou bien de révolte ou d'amertume ou de nostalgie, mais qui se dégage du lot. C'est une histoire et c'est toujours souvent le prétexte pour rentrer dans un truc bien plus extraordinaire que la place en fin de liste.
Certains derniers provoquent un petit pincement au cœur. Et puis, pour d'autres, on est assez content, finalement, qu'ils soient les derniers. Et c'est le cas, par exemple, du dernier bourreau en France. Et avec lui, le dernier condamné à mort.
La ville de Marseille était encore endormie quand le condamné à mort, Abidal Jean Doubi, 28 ans, attendait son exécution assis sur une chaise pendant 20 minutes face à près de 30 personnes, aux fonctionnaires de police, face aux gardiens, ses avocats, Maître Pollack et Goudarot, face à la mort, ici, à la prison des Baumettes. L'homme qui a été guillotiné ce matin à 4h40 est un Tunisien coupable de l'assassinat d'une jeune fille commis, je cite l'acte d'accusation, avec torture et acte de barbarie, ainsi que du viol d'une adolescente de 15 ans et de violence commise avec préméditation sur trois mineurs. Avant lui, cette année, ont été exécutés Jérôme Carin et Christian Ranucci. Maître Pollack a dit que Hamida Djandoubi, je cite, n'a émis aucune protestation, n'a eu aucune mauvaise parole, il a fumé 2 cigarettes, on lui a refusé une 3e.
Extrait du journal de TF1 du 10 septembre 1977, le dernier condamné à mort, Hamida Djandoubi, exécuté par le dernier bourreau français, qui s'appelait...
Marcel Chevalier.
Oh,
ça fout une drôle d'ambiance, hein, ce genre de document.
Eh ben oui, mais c'était l'époque où, d'ailleurs, on ne disait pas bourreau, on disait exécuteur.
Exactement.
Et on ne disait pas l'exécuté, mais le patient.
Le patient, c'est comme ça qu'il l'appelait en jargon du métier, ouais.
Est-ce que Marcel Chevalier pensait exercer un métier d'avenir?
Oh, ça, c'est une histoire formidable. C'est que les bourreaux, en général, se refilaient la tâche les uns les autres en famille, où il y avait des dynasties de bourreaux, les Sanson, les Deblaire et tout. Et lui, Marcel Chevalier, il vient pas de là du tout. C'est une histoire d'amour qui l'a amené là, un roman photo comme nous deux. C'est merveilleux. C'était un bon ouvrier, un typographe. Hein, il travaillait dans l'imprimerie. Il avait été meilleur ouvrier de France en 1947. Donc rien à voir avec la justice ni avec l'hémoglobine. Et il est tombé amoureux d'une jeune fille qui avait un nom bizarre, elle s'appelait Obrecht. Mais lui, il ne savait pas ce que c'était. Il s'est marié avec elle et puis il a découvert que son oncle, Monsieur Obrecht, était exécuteur des hautes œuvres, c'est-à-dire qu'il était le bourreau. Et bon, jusque-là, tout va bien. Mais sauf que quand Monsieur Obrecht a eu des places libres dans son équipe, il cherchait, tout le monde, c'est difficile de trouver des candidats à ça. Et puis, il y avait la tradition de toujours se tourner vers la famille. Alors, il a regardé en louchant avec insistance sur son beau-neveu, le mari de sa nièce. Et puis, il lui a proposé. Et puis, Marcel Chevalier, qui était un ouvrier consciencieux, a dit d'accord. Donc, il est devenu aide-bourreau. Et puis, bourreau adjoint. Et puis, quand...
Bourreau adjoint, c'est affreux.
Eh oui, quand Monsieur Obrecht a passé l'éponge, c'est lui qui est devenu exécuteur en chef.
Alors, il n'a pas eu beaucoup d'exécutions à son actif?
Non, il n'en a eu que 2.
Les foules se sont toujours pressées pour assister aux condamnations à mort en public, c'est ce que vous rappelez dans votre livre, Bruno Léandri. Et pourtant, vous dites que le bourreau était une figure détestée.
Oh, ça, c'est formidable.
Pourquoi?
C'est un truc qu'on découvre quand on se penche sur l'affaire. C'était un paria, alors qu'en principe, il servait la justice comme n'importe quel policier, quel juge. Non, mais lui, au Moyen-Âge, par exemple, il était relégué dans les fossés des forteresses, dans les fossés des châteaux. Il vivait dans des taudis et il fallait pas le toucher. Et j'ai lu l'anecdote incroyable que dans les années avant l'abolition de la peine de mort, les années 70, je ne sais plus quel bourreau qui était à l'époque exécuteur en chef, il est descendu faire une exécution, je crois, vers Bordeaux ou par là, et il n'y avait pas d'hôtel. Les hôteliers refusaient de le recevoir quand ils savaient que c'était le bourreau qui allait bosser le lendemain. Ils ont dû réquisitionner une chambre pour qu'il puisse dormir. C'est formidable quand même.
C'est un métier dont la disparition réjouit quand même, hein, Bruno Léandri. On est un peu content que ce soit disparu.
La disparition réjouit, mais en même temps, il y a la crainte que ça puisse revenir du jour au lendemain, parce que vous savez, il y a des balanciers comme ça dans l'histoire, et que on est à un top de civilisation, et on se demande si
ça peut pas faire marche arrière.
Ça va pas être menacé quelque part.
Alors, il y a la famine aussi. C'est un phénomène qu'on est bien content de savoir terminer. Vous parlez de la dernière famine dans votre livre.
La dernière grande famine.
Voilà, la dernière grande, vous la datez de 1709.
Oui, oui.
C'est le fameux grand hiver.
Voilà, c'est ça, ouais.
Tout gèle.
Ça a été une histoire épouvantable quand on se replonge dans les archives de l'époque. C'est quelque chose qui a traumatisé l'Europe entière.
Mais le drame, c'est qu'il y a le gel et il y a le dégel qui suit.
Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il y a eu d'abord le froid, une vague de froid où c'est tombé à moins 30. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une succession de vagues de froid et de chaleur qui est revenue. Donc la température redevenait positive. Donc l'eau dégelait, mais 6 fois ça s'est produit dans un mois. Et ce qui fait que toutes les plantations, tous les arbres fruitiers, les vergers, les potagers, rien n'a résisté, et les blés d'hiver et tout ça, tout a pété. Et donc, il y avait, une fois que c'était fini, il n'y avait plus rien. Et au printemps, quand arrivait le printemps, il n'y avait plus rien. Et le temps qu'ils sèment en urgence une récolte pour arriver à nourrir la population, il y a eu des milliers de morts de famine qui ont suivi les milliers de morts du froid.
Et vous écrivez en conclusion, je vous cite, « Ne suffirait-il pas d'un bouleversement climatique joint à une convulsion politique d'ampleur pour que la machine économique s'enraye et que la famine s'offre aujourd'hui un frétillant comeback. »
Ben oui, hein, dans notre société...
Vous pensez que c'est possible?
Avec les flux d'Internet et tout, on se dit tout ça est très 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 loin, mais finalement, des fois, on s'aperçoit que la barbarie et les temps obscurs, ils sont pas si loin que ça. Hein.
Certains derniers sont fêtés comme des premiers. C'est pas fréquent, Mais ça arrive, et on en a un bel exemple avec le Vendée Globe. Parce que le premier est arrivé, Armel Le Cléac, le vainqueur, mais les yeux ont été rivés vers le dernier du Vendée Globe, qu'on attend toujours encore maintenant, et notamment sur France Inter. Chaque matin, Laetitia Gaillet, qui est à France Inter, a lancé son petit cri d'amour pour Sébastien Destrémeau, alors qu'il n'a toujours pas atteint le Cap Horn.
À l'arrière, loin de tout tumulte, notre favori pour occuper la dernière place, Sébastien Destrémeau, toujours dans le Pacifique, 61% du Tour du Monde déjà bouclé. Courage, il reste le Pacifique donc à passer, le Cap Horn, le passage de l'Équateur. Allez, on sera là, Sébastoulou, à l'arrivée en mars, promis.
Et voici la réponse de Sébastien Destrémeau, enregistrée depuis son bateau.
Bienvenue au bureau. Et puis j'en profite pour remercier, alors que le bateau, on est à 18 nœuds là. Je vais remercier quelqu'un que je ne connais pas. Laetitia Gaillet. Laetitia Gaillet qui, sur les ondes de France Inter, tous les matins, m'a affublé d'un nouveau prénom. Mon Sébastienou. J'ai la honte. Alors, mais ça sort d'où ça? Bon, on aurait pu faire mon choupinet ou mon petit loulou. Ah non, c'est mon Sébastienou.
Voilà, celui qui n'est pas arrivé encore du Vendée Globe, Sébastien Destrémeau, qui s'amuse tout seul sur son bateau.
Ah bah, des derniers comme ça, ça vous fait fondre quand même, avouez.
Alors voilà, le dernier, là, il est fêté comme un vainqueur, Bruno Léandre.
Alors en plus, en sport, c'est une certaine revanche, parce qu'en général, en sport, dans toute compétition, on s'en fout du dernier. Tout le monde n'a rien à foutre du dernier. Et là, il y a quand même quelques sports où non seulement vous avez un type qui a bossé aussi fort que les autres, qui a pris autant de risques, qui s'est défoncé comme les autres, mais qui en plus n'a pas de chance. Et le Vendée Globe, c'est une des rares compétitions sportives où il y a le dernier arrive à amener autant de ferveur populaire que le premier.
Vous rappelez qu'en 2013, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, Alessandro Di Benedetto, le dernier, avait réussi à rassembler 10 000 personnes pour l'accueillir.
Ah oui, mais ils sont dingues. Non, mais c'est aussi les Vendéens, ils sont secoués. Hein.
La chanson aime aussi les derniers, parce que je vous signale que la chanson aussi a célébré les derniers. Vous voyez, c'est mon dernier bal de Renault, dernière station avant l'autoroute de Hubert Félix Thiéfen.
Bravo.
Mon dernier amour de Yannick Noah, pas obligé de retenir non plus. Mais il y a aussi The Last Time des Rolling Stones.
Yes.
What you know is true.
Musbouche sur France Inter.
Bruno Léandri est avec nous jusqu'à 20h pour son livre Les Derniers, une compilation des derniers à travers l'histoire, du dernier roi au dernier gardien de phare.
Même s'il y a un petit peu de vent, comme ça, ici on ne le ressent pas. Alors ça me permettait de pouvoir voir l'horizon et puis de pouvoir voir la terre où j'ai imaginé plein de choses, mes amis en train de vivre leur vie normale et moi ici entre les deux. Forcément que ces tableaux-là, je ne les aurais plus.
La voix émue de Jean-Paul Aymon, le dernier gardien de phare de Cordouan. Il a remis les clés le 29 juin 2012. Cela dit, Bruno Léandri, le phare était automatisé depuis 2006.
Oui, bien sûr, depuis très longtemps, c'était plus rentable de payer des gens dans ces trucs en pleine mer, dans un métier dangereux, difficile et tout, alors que avec d'abord les radars et ensuite le GPS, les phares étaient devenus quasi inutiles. Mais ils le sont pas, parce qu'il faut toujours garder un plan B, justement, comme on disait tout à l'heure, si jamais les temps obscurs reviennent et si jamais Internet et les satellites, c'est fini, eh ben, il y aura quand même encore les phares qui guideront les bateaux. Je rigole, mais c'est pour ça qu'ils les gardent, hein, les phares automatisés.
Le phare de Cordouan, vous écrivez que c'est le château de Versailles. Oui, c'était le plus luxe, en fait.
Il est au milieu de l'estuaire de la Gironde, exactement. Et puis après, au 18e siècle, je crois, ils l'ont rehaussé. C'était un des plus hauts de France. Et justement, comme il était très, très, très grand, on pouvait y accueillir des visiteurs. C'était le dernier phare en pleine mer qu'on pouvait visiter facilement. Les bateaux y accostaient. Et donc, ils ont gardé les gardiens de phare, plus pour accueillir les visites que, bon, ils continuaient à entretenir quand même, mais le phare lui-même était automatisé. Donc,
à noter que toujours pas de femmes dans la profession.
Ça, c'est marrant, hein. C'est marrant, il n'y en a jamais eu une seule.
Très bizarre.
Et alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le. Enfin bon.
La mer ?
Freud est passé de mode, mais le phare était.
La tempête.
Était un symbole phallique très célèbre chez. C'est rendu célèbre par Freud d'ailleurs. Donc, est-ce que ça y a un rapport ? Je ne sais pas.
Dans la série Les Derniers, et ça nous pince le cœur, il y a aussi le dernier poilu. Alors, celui-là, il m'a touché parce qu'il avait 110 ans, Lazare Ponticelli.
Oui. C'était non seulement le dernier poilu, mais c'était l'homme le plus vieux de France quand il est mort.
En plus.
Oui, c'était le doyen.
Et puis PDG d'une multinationale, le monsieur.
Ça, c'est extraordinaire, c'est que dans la communication de cette multinationale, qui est Ponticelli, c'est un groupe, c'est un groupe énorme. Il n'y a jamais la mention du fait que leur fondateur était le dernier poilu et le doyen de la France. C'est très curieux, ça n'est pas... Alors que son nom s'étale sur tous les plus grands chantiers de la Terre. Les chantiers pharaoniques, c'est souvent l'engineering de Ponticelli. On voit son nom écrit en lettres de 6 mètres de haut sur des engins qui mesure 200 mètres de haut, et ils font jamais le rapport. Alors que vous voyez ça, vous dites, bah c'est lui, le vieux poilu qui est mort hors d'âge, c'était le patron de cette grande multinationale.
Et quand s'éteint un dernier comme Lazare Ponticelli, c'est aussi un pan de notre mémoire qui s'éteint, Bruno Léandri. On feuillette et on lit votre livre un peu comme une balade à travers des choses finalement qu'on va plus
mais
avoir.
Alors pour ce pauvre Lazare Ponticelli, là honnêtement, j'aurais pas été le seul sur le terrain parce que là il fallait jouer du coude pour l'interviewer. Parce que comme toute la presse à chaque 11 novembre se rabattait sur un groupe de poilus qui était de moins en moins nombreux, il y a eu une polémique sur les coupeurs de médailles en quatre. Il y a eu une polémique pour savoir parce que lui, au départ, quand il était dans l'armée, il avait pas la nationalité française. Mais il était dans l'armée française, il s'était engagé volontaire.
Il était italien.
C'était un immigré italien. Et quand l'Italie est entrée en guerre, il a dû rejoindre l'armée italienne. Il n'était pas d'accord. Il voulait rester dans l'armée française. C'est les gendarmes qui l'ont ramené dans l'armée italienne. Et puis, il a fait la guerre dans l'armée italienne. Néanmoins, il était dans les tranchées quand même avec l'armée française. Donc, c'était un poilu. Et après, il y a eu quand même des commissions d'enquête et tout. Et puis, ça a été vraiment officiellement le dernier poilu vivant en France.
C'est pas la première fois que vous désacralisez l'histoire, Bruno Léandri. Je vous entends là.
Je me liquéfie d'admiration pour ces héros.
Mais pour désacraliser, il faut sans doute admirer. Et puis, c'est pas la première fois que vous le faites parce que vous aviez signé la grande encyclopédie du dérisoire et ça a duré pendant 5 tomes. Et cette démarche, moi, elle me rappelle un certain Gottlieb.
Dans la rubrique Abrac, foutre le bordel dans la culture, c'était aussi prendre ce que j'avais moins aimé. Mais qu'on ne nous enseignait pas à l'école. C'est tourné en dérision. Les types qui sont en haut d'une chaire, les types qui déclament, qui montrent qu'eux savent. Et quand quelqu'un dit une connerie, il se moque de lui, avec un peu de mépris et tout ça, ça fait tellement de bien de se foutre de leur gueule à ces types-là.
Le regretté Marcel Gottlieb en juin 2008, c'est l'idée de vulgariser, de chahuter le savoir pour le mettre à la portée des gens. Bruno Landry, vous avez cette même idée-là?
Ça me fait tout drôle de l'entendre, là, parce que ça remue des trucs très émotionnels. Ça a été quand même la lumière de ma vie, Gottlieb. J'ai voulu travailler avec lui quand j'avais 15 ans. Je dis, ce type-là, je vais bosser avec lui. Et voilà, ça a déterminé ma vie. J'ai bossé avec lui, j'ai fait ça. C'était un grand érudit. Il adorait s'intéresser à plein de choses, à l'histoire, à la littérature et tout. Et comme il aimait aussi rigoler, on se retrouvait sur bien des conversations.
Et vous qui avez connu Gottlieb, vous qui avez travaillé à Fluide Glacial, est-ce que vous trouvez que notre époque, elle a encore le sens de l'humour?
C'est un peu difficile. C'est plus très comparable avec notre époque où la liberté, elle était réelle. Maintenant, on intériorise les barrières. Non, les gens ne déconnent plus autant qu'avant. Ils osent plus, quoi.
Et l'autocensure a fait des ravages.
Ah, bien sûr, bien sûr. Je veux dire que on parle, il y a des rodomontades, des types et tout, mais ils ont gagné. Hein. Les frères Kouachi, ils ont gagné. Tout le monde ferme sa gueule maintenant. Et que vous allez dire des trucs là sur l'islam, sachant que la moindre critique, sachant qu'un type peut vous attendre avec une mitraillette à la sortie. Ben non, vous n'allez pas chercher les emmerdements. On se tait. Voilà. Donc on rit de choses qui mangent pas de pain, de trucs sans risque. Alors qu'à l'époque, non, on risquait Harakiri, Fluide Glacial, tout ça, on prenait des risques en rigolant. Maintenant, ben non, on rigole des belles mères.
Alors il y a l'humour à la Raymond Devos sur le langage, il y a l'humour un peu clownesque à la Le Luron, on a eu le grinçant à la Desproges. Comment est-ce que vous définiriez le vôtre, Bruno Léandri? L'humour qui vous parle le plus?
Je sais pas, je vais dire que des conneries, puis j'aime pas pontifier. Je sais pas, c'est aux gens de le dire, c'est aux gens qui écoutent, ils me trouvent drôle, ça les fait marrer. Bon, oui, moi j'aime bien parler de choses sérieuses en rigolant. Je veux dire, dans ce bouquin Les Derniers, il y a du travail, que je raconte pas n'importe quoi. J'ai fait de la recherche et tout, mais justement, un travail sérieux étaye un rire qui est plus profond, parce que quand je dis une connerie sur un truc, c'est souvent que le truc, je suis sûr que c'est vrai, quoi. J'ai été vérifié et tout.
Il y a une part de savoir très poussé, en effet, quand vous racontez notamment le dernier locuteur du Dalmate, Végliot.
Oh, c'est formidable.
Mais rien
ça.
Que le titre, je l'adore. Le dernier locuteur du Dalmate, Végliot. Qu'est-ce que c'est que le Dalmate, Végliot, déjà?
Ah ouais, ça c'est déjà, faut être un super spécialiste de linguistique pour connaître le Dalmate, Végliot. Mais c'est une variante du Dalmate. Et le Dalmate, c'est une langue qui a disparu maintenant.
Donc, c'est la seule langue romane qui a disparu.
Voilà,
elles
c'est
ont toutes été conservées, sauf celle-là.
Voilà, c'est ça. Et alors, le Dalmate Véliot était une petite variante du Dalmate, qui était parlé dans une île qui s'appelle Kirk. Parmi toutes les langues qui ont disparu, Dieu sait s'il y en a eu des idiomes disparus en Europe, celle-là, elle a disparu assez tard, au 19e siècle, et juste à temps pour qu'il y ait un linguiste, un Italien, qui se dise « Oh là, mais attention, là, il y a un idiome qui va disparaître. » Et il a été sur place. Trop tard, on lui a dit « Ah ben non, le Dalmate, un vieux patois, plus personne ne le parle, tout le monde s'en fout, vous trouverez personne. » Et puis un moment, on dit « Ah si, si, il y a un type qui est... » C'est Bourbourg, c'est un barbier, il parlait cette langue-là, mais plus personne ne la parle ici. Allez le voir, alors le linguiste italien, il va le voir, et il trouve effectivement ce type qui lui dit « Ben non, moi je parle plus cette langue-là, oui, je la parlais avec mes parents, enfin, si, je la parle un petit peu dans mes souvenirs, mais je la parle plus avec personne. » Et puis en plus, il était vieux, il radotait un peu, puis il manquait des dents, donc il articulait mal. Alors, il a retrouvé l'accent du Dalmate Végliot, quand même, qui parle comme ça. Mais toujours est-il que que trouver quelqu'un qui s'intéresse à son passé, le type a cherché ses souvenirs, et il a retrouvé des chansons, des poèmes que lui racontaient ses parents, et ce linguiste italien.
On peut donner son nom quand même, le linguiste italien. C'est Matteo Bartoli.
Matteo Bartoli, oui. Voilà. Et c'est en 1900, c'est pour ça que j'ai du mal à m'en rappeler.
1906.
Et donc, il a publié un livre sur le Dalmate Véliot, basé sur tout ce que lui avait confié ce cher Bourbourg, qui était très âgé et qui ça l'empêchait pas de bosser sur des chantiers, parce qu'apparemment, il n'y avait pas de retraite à l'époque. Et c'est sur un chantier de ponts et chaussées qu'il s'est pris une mine. Il est mort avec une mine dans un chantier de ponts et chaussées. Et avec lui, le Dalmate Véliot a disparu pour de bon. Là,
complètement.
Mais heureusement, il y avait ce Bartoli qui était passé, qui avait récupéré in extremis les éléments du Dalmate Véliot, et il y a pas beaucoup de langues qui ont disparu, qui ont eu cette chance.
Bruno Léandri, votre dernière heure a sonné, puisqu'on parle des derniers. Vous allez devoir nous livrer jusqu'à votre dernier secret d'écriture et vous n'aurez pas le dernier mot. C'est l'heure d'un exercice dernier cri, le procès verbal. Votre nom.
Ah, mon nom, voilà. Pardon, Léandri.
Votre prénom.
Bruno.
Vous écrivez assis, couché ou debout?
Bah assis, quoi, comme les gens s'y disent.
Sur ordinateur ou sur papier?
Maintenant sur ordinateur, oui, bien sûr.
Vous êtes chez vous, vous êtes...
Alors, Victor Hugo écrivait debout, oui. Et Cavana, jusqu'à au dernier jour, il a écrit sur papier.
Chez vous ou au café?
Chez moi, ouais.
Il y a grande musique ou grand silence?
Oh non, plutôt de silence. C'est pour ça que j'écoute pas la radio le matin, parce que ça... Non, je peux pas écouter un truc...
Vous écrivez à quelle heure?
Le matin, plutôt.
Et quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez?
Là, en ce moment, là, je vois des arbres en ce moment. Mais avant, à Paris, je voyais une fond d'une cour qui était à 3 mètres de ma fenêtre.
Et quand vous êtes en période d'écriture, vous dormez correctement ou au contraire, sommeil chahuté?
Oh, mais je suis toujours en période d'écriture. Moi, j'ai pas de période comme ça.
J'ai pas de période.
Simenon. Mais non. Simenon, lui, tu sais, il bossait comme un malade pendant 3 semaines, ça durait. Il écrivait un roman et puis après, il se défoulait, pute, de champagne et tout. Hop, s'éclatait pendant un mois. Non, moi, je m'éclate et je travaille toujours.
Les deux en même temps.
Les deux en même temps. Bah oui, sinon, le travail, ça doit être quelque chose d'agréable à vivre. Ça doit être un moment privilégié. C'est pas une corvée.
Merci Bruno Léandri. Vous êtes libéré du procès verbal. Je vous propose de rester parmi les derniers, les meilleurs au fond. La preuve avec le dernier album de Benjamin Biolay, Palermo Queens.
J'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Près des mines de salt, il ne nous fallut qu'une heure et trois jours. 2000 ans que j'attendais ça, qu'on me dise de tels mots d'amour. Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut chaque jour. À la fois trop plouc et trop chic pour une fille comme toi.
Con un francés acabaría, mucho menos cumbia, rap y boom, boom, boom. Escribir canciones tomando cerveza y Coca-Cola con rum. Me dice que le encanta cantar conmigo, todo es casi ridículo, de película te digo. Mi romántico cantante francés estaría escuchándote las 24 horas de los 31 días del mes. Me dice que soy la reina de Palermo, Queens. Yo le dije que no soy cantante, que soy actriz. Si me lo decían hace 2000 años, no lo creía. Escuchando La Mona Jiménez con Benjamín Biolay terminaría. Me encanta ser su reina de Palermo, Queens. Y pareciera que absolutamente todo es posible en París. Todo es posible en París.
¿Qué me tu dis? Qu'on joue pas pour la équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop plouc.
Vous écoutez l'Amuse-Bouche jusqu'à 20h en compagnie de Bruno Léandri et son ouvrage d'histoire iconoclaste à paraître, Les Derniers chez Talendier. Or, il y a une catégorie de gens qui ne sera jamais à la traîne, pour le coup, ce sont les libraires, toujours numéro 1. Et je ne sais pas pourquoi, Bruno Léandri, c'est à cette heure-ci qu'il nous appelle. Ben c'est très... Oh, que disais-je ? Notez la sonnerie.
C'est le bruit du bouchon qui les attire.
Qu'est-ce que je disais ? Allô ?
Oui, bonsoir. C'est Maria, j'appelle pour l'apéro.
Bonsoir Maria. Ne me dites rien, cette voix respire le Luberon.
Exactement.
Respire même l'île sur la Sorgue.
Un petit rosé frais.
Petit rosé frais. Ne seriez-vous pas Maria Ferragu de la librairie Le Passeur de l'île à l'île sur la Sorgue ?
Exactement.
Soyez la bienvenue Maria.
Merci.
Quelle est la situation la plus incongrue que vous avez vécue dans votre boutique ? Ou alors s'il y a une anecdote un petit peu hors des clous qui vous est arrivée ?
Oh bah écoutez, il y a quelques mois, il m'est arrivé une anecdote et j'ai envie de vous la raconter ce soir parce que c'est une anecdote politique. Donc par les temps qui courent, c'est un sujet assez à la mode. Donc je voulais partager ça avec vous. Donc en fait, je suis dans la librairie, un candidat en campagne arrive, il est accompagné d'une grande délégation avec les édiles de la ville, des photographes, enfin beaucoup de monde.
Que faisait chez vous François Fillon ? J'essaie de prêcher le faux pour avoir
cité,
le vrai.
Je ne l'ai pas cité.
C'est vrai.
Et donc, voilà...
Pénélope Fillon, c'était Pénélope.
C'était Pénélope, bien sûr.
Je n'en dirai pas plus.
Non, allez-y,
il me salue et puis il m'entretient longuement pendant 10 bonnes minutes. Il prend beaucoup de temps pour parler avec moi, pour me dire à quel point il trouve que les librairies sont des fers de lance de la culture, à quel point le livre papier est un outil indispensable. Enfin bon, il est très convaincu, il a lu une étude récemment, le livre résiste bien face au numérique. Enfin bon, il est très très pro-librairie et il a un discours très positif, donc évidemment, on discute agréablement. Sur ce, sa femme arrive. Et donc, ils s'embrassent comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis 3 jours, les yeux des photographes. Enfin bon, voilà, tout ça, une belle mise en scène. Et puis, elle fait un tour dans la librairie. Elle prend un livre sur une table et elle se tourne vers son mari et elle lui dit « Regarde, chérie, c'est le livre qu'on vient de télécharger. »
Oh !
Donc voilà, elle venait de ruiner en quelques phrases les efforts qu'il avait faits. Et elle s'est donc sentie obligée d'acheter la version papier quand même.
Ah, au moins, voilà. Mais prise en flagrant délit de téléchargement de livres.
Alors, c'est pas bien. Dit qu'il était illégal, mais quand même. Voilà.
Et quel est le livre que vous conseilleriez à notre invité Bruno Léandri ?
Alors Bruno, j'avais envie de vous proposer un livre qui a été une vraie découverte pour moi ce début d'année. C'est le livre de Jean Egland, qui est une auteure américaine qui s'appelle Dans la forêt, qui est publié aux éditions Gallmeister.
C'est formidable.
Et bah, écoutez,
moi, je partage votre point de vue.
Je vais découvrir ça.
Ouais.
Dans la forêt, mais alors il y a les petits lutins, il y a quoi ? Il y a des bambis ?
Bien pire, alors, Maria. Racontez-lui, bien pire.
On est plutôt dans un univers post-apocalyptique, mais il faut pas
avoir
peur de ce mot.
Ah non, là, ça me fait peur.
Alors il faut pas avoir peur de ce mot parce que c'est pas vraiment le sujet qui compte. On va suivre le destin de deux jeunes filles, Nell et Eva, qui ont 17 et 18 ans, et qui vont se retrouver coupées du monde, dans la maison familiale. Le monde qu'elles connaissaient a sombré, et elles vont essayer de se raccrocher à des choses qu'elles connaissaient, qui étaient des choses importantes pour elles. L'une va être la volonté d'être dans les livres, d'apprendre, d'étudier pour rentrer à Harvard. L'autre va continuer à danser le plus possible. Elles ont toutes les deux des rêves, des aspirations, et puis elles vont bien comprendre que ce monde-là ne reviendra jamais, et donc elles vont être obligées de se tourner vers une ressource qu'elles n'avaient pas vraiment soupçonnée jusqu'à maintenant, puis qu'elles avaient un peu méprisé même. Elles en avaient un peu peur de cette grande forêt qui est autour de leur maison, et elles vont comprendre que c'est cette grande forêt qui va les sauver. Et donc, en fait, ce roman est un vrai bijou déjà de poésie, je trouve.
C'est le même principe que Malville, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que les derniers se retrouvent donc les premiers à devoir tout reconstruire. Vous nous redonnez les références, Maria,
oui,
de ce livre ?
C'est Dans la forêt de Jean Egland aux éditions Gallmeister.
Merci Maria Ferragu.
Ça donne envie, hein. Je vais le télécharger aussi. Ne
le téléchargez pas.
Non, c'est une blague.
De la librairie Le Passeur de Lille à Lille sur la Sorgue. Merci au magazine Page, la revue des libraires qui est partenaire de l'Amuse-Bouche. Maria, on vous attend pour un dernier verre, forcément.
Avec grand plaisir.
À tout de suite Maria.
Merci, bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée.
Au revoir. C'est l'heure des inavouables. Bruno Léandri, on a beau être le roi des derniers, on n'en est pas moins homme, non. Explorons vos zones d'ombre et dites-moi s'il y a une chanson, un film, un livre un peu ringard, un peu kitsch, un petit peu inavouable.
Ah oui, alors je me fais beaucoup souvent critiquer parce que j'adore les blockbusters américains.
Mais moi j'adore
avec,
ça.
Où la Terre elle explose.
Mais j'adore ça.
Et plus elle explose avec plein de... Alors ça, j'adore ça
j'adore
aussi.
J'adore aussi. Vous en avez un en tête ou pas ?
Le type c'est Armageddon quand même.
Armageddon, Michael Bay, sorti en 98 avec Bruce Willis. Et c'était l'histoire de bras cassés quand même qui était envoyé d'urgence pour éviter une apocalypse. Je viens en fait de résumer les primaires du PS. Il y a du Bruce Willis.
C'est pire, c'est pire.
En Benoît Hamon, il y en a.
C'est une pluie de météorites. Et le fragment que vous nous annoncez, il est de quelle taille? C'est ce que nous appelons un exterminateur. Rien n'y survivra, même pas une bactérie. Le gouvernement vient de nous demander de sauver le monde. Quelqu'un veut refuser?
On aura droit à une prime de risque?
Ils veulent tous bénéficier d'une exonération d'impôt général.
Le jour le plus sombre pour la Terre.
Comment tu te sens?
Bien, si ce n'est que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie.
Sera le jour où l'homme connaîtra son heure de gloire.
C'est mon père, Milo! Je t'aime!
Armageddon.
Et voilà.
Ça donne envie aussi.
Ah, les primaires du PS, vous dis-je. Enfin, ça me fait un truc. Est-ce qu'il y a un livre, Bruno Léandri, qui vous tombe des mains? Un grand classique que vous seriez censé aimer, puis que vous n'y arrivez pas?
C'est pas vraiment un aveu, parce que je suis pas le premier à qui ça arrive. J'ai, 12 fois au moins, essayé de lire Proust.
Je ne peux pas expliquer pourquoi j'arrive pas.
Il y a une incompatibilité génétique sans doute. J'arrive pas à rentrer dedans. À la 10e page, ça me tombe des mains.
C'est sur la mémoire pourtant. C'est un peu ce que vous avez fait.
Il y a un travail d'orfèvre. C'est magnifiquement écrit. C'est ce que vous voulez. Mais je suis indifférent à ça. C'est le genre de littérature qui m'intéresse pas, quoi. Donc excusez-moi.
Mais la littérature, c'est aussi avoir aussi des blocages. On a complètement le droit. Justement, en France, on la sacralise un peu trop, cette littérature. Et c'est sur cette sentence définitive, d'ailleurs, que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à la table. Et puis, venez, même si vous êtes en queue de peloton, les derniers seront les premiers. La preuve avec les derniers de Bruno Léandri, chez Talendier, à paraître jeudi prochain. La semaine prochaine, nous recevrons Yann Moix pour Terreur, paru chez Grasset. L'amuse-bouche est le dernier de la classe, au fond du radiateur, et il assume, grâce à Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Florent Beauval. Après 20h, vous retrouvez Zoé Varié pour D'ici d'ailleurs. Bonne semaine et n'oubliez pas que même dernier dans la vie, vous êtes les premiers dans nos cœurs. On vous embrasse et à samedi.
Bravo.